Bonsoir à tous et bienvenue à la station T. Le télescope James Webb a fait une entrée fracassante dans les médias la semaine dernière, avec des clichés incroyablement précis des régions lointaines de l'espace. Jusqu'à maintenant, nous pouvions voir ses étendues, mais de manière très floue seulement. L'observation de l'espace n'est pas seulement une manière de découvrir d'où nous venons, du sens de notre existence ou du fonctionnement de l'univers. C'est aussi une façon de nous protéger. Nous protéger d'un éventuel météore dont la trajectoire passerait au travers de notre belle planète. Nous protéger, ou au moins nous avertir, de l'arrivée de visiteurs venus d'ailleurs. Avoir connaissance de ces événements le plus tôt possible nous permettra de pouvoir prendre des mesures préventives suffisamment à l'avance. Mais parfois, cela n'est pas suffisant. Le télescope James Webb a découvert quelque chose de terrifiant dans l'espace lointain. Une histoire de Von Kloss. Je travaille pour la NASA en tant qu'astronome, et il y a certaines choses que nous cachons au public. Non, la Terre n'est pas plate, et les aliens ne contrôlent pas le gouvernement. Putain, j'aimerais que ce soit le cas. Car la vérité est bien, bien pire. En 1993, le télescope spatial Hubble a vu une étoile disparaître. Elle n'est pas devenue une supernova, elle n'est pas morte naturellement non plus. Elle s'est simplement éteinte. En l'espace de quelques minutes. Cette étoile était déjà trop faible pour être vue à l'œil nu, et les télescopes terrestres avaient du mal à la distinguer parmi les étoiles environnantes. Si bien que l'événement n'a pas été largement connu du public. À l'époque, nous pensions que l'explication la plus probable était qu'un nuage de poussière interstellaire avait dérivé entre la Terre et l'étoile, le masquant de notre vue. L'événement a été noté, puis oublié. En 2007, deux autres étoiles ont disparu. En raison des circonstances de cet événement, c'était beaucoup plus inquiétant. Les deux étoiles en question faisaient partie d'un système binaire, orbitant l'une autour de l'autre à une distance assez proche. Si un nuage de poussière interstellaire était à nouveau le coupable, elles auraient toutes les deux semblé disparaître simultanément, ou au moins d'une façon très rapprochée. Au lieu de cela, les deux étoiles ont disparu individuellement en quelques minutes, séparées par un intervalle d'environ 8 heures. Ce système binaire était également plus proche de la Terre, d'environ 15 années-lumière, que l'étoile qui avait précédemment disparu en 1993. Après avoir soigneusement examiné des millions d'images de Hubble, deux autres étoiles ont été identifiées comme ayant disparu en 1995 et en 2002. Elles se trouvaient toutes dans le même voisinage stellaire, à une poignée d'années-lumière l'une de l'autre. La seule conclusion que nous pouvions tirer était qu'une influence inconnue, se déplaçant à une vitesse proche de celle de la lumière, enveloppait ou détruisait ces étoiles. Malheureusement, Hubble n'était pas assez puissant et précis pour nous en dire plus. Le télescope spatial James Webb a été mis en service il y a quelque temps. Bien que les canaux officiels vous diront qu'il est encore en phase de test, nous collectons activement des données depuis début février 2022. L'une des premières choses que nous avons faites a été de diriger le télescope vers les régions de l'espace occupées par les étoiles disparues. Si elles avaient été bloquées par des nuages de poussière, un espoir que certains d'entre nous entretenaient encore, la sensibilité accrue du télescope aurait pu permettre de les traverser et de confirmer que les étoiles étaient toujours là. Malheureusement, nous n'avons pas eu cette chance. Les trois premières étoiles qui avaient disparu étaient encore complètement sombres. Les détecteurs d'ondes gravitationnelles, cependant, ont rapidement trouvé quelque chose d'étrange. Non seulement les masses stellaires étaient toujours présentes, mais la quantité de masse avait en fait augmenté. Des observations plus sensibles ont également détecté une sorte de corde, ou de toile, s'étendant dans l'espace et reliant ces étoiles désormais invisibles. Lorsque nous avons braqué le télescope sur le système binaire qui avait disparu en 2007, qui était le point le plus proche où ce phénomène avait été observé jusqu'à présent, il restait suffisamment de rayonnement ambiant du spectre EM pour tenter une lecture du spectromètre de masse. Si vous ne le savez pas, la spectrométrie de masse est un procédé incroyablement utile. En mesurant les schémas des longueurs d'onde lumineuses émises ou réfléchies par un objet, nous pouvons obtenir des tonnes d'informations utiles, telles que sa température, sa vitesse et sa direction de déplacement, ainsi que sa composition chimique. Les relevés que nous avons obtenus des étoiles binaires n'avaient pourtant aucun sens. Tout d'abord, elles étaient froides. Presque aussi froides que le milieu interstellaire environnant. Ce qui est arrivé à ces étoiles les avait complètement éteintes, ou avait empêché leur lumière de s'échapper. Ce qui était vraiment déroutant, cependant, étaient les lignes d'émission renvoyées par le spectromètre de masse. Plusieurs éléments familiers comme l'hydrogène, le carbone, l'azote, l'oxygène et le magnésium ont été identifiés, mais ils étaient peu nombreux. La plupart des relevés ne correspondaient à aucun élément chimique connu, et semblaient même défier ce que nous savions de la physique, de la lumière, de la matière et de la chimie. Cette structure massive qui s'étendait sur toute l'étendue de l'étoile était principalement composée de matériaux pour lesquels nous n'avions même pas de nom, et qui n'étaient peut-être même pas de la matière telle que nous la comprenons. Les spéculations allaient bon train. Évidemment, une telle chose ne pouvait pas être un phénomène naturel. Enfin, nous avions la preuve d'une vie extraterrestre. Mais quelle était cette chose que nous avions découverte? Et dans quel but avait-elle été construite? L'hypothèse la plus répandue était que nous étions en présence d'une série de coquilles de Dyson, des collecteurs solaires massifs construits pour envelopper complètement les étoiles afin de capter 100% de leur énergie. Un tel concept avait été imaginé au début du XXe siècle comme une source d'énergie potentielle pour une civilisation interstellaire. Depuis lors, l'idée a fait son chemin dans la science-fiction populaire. La construction de ces structures massives a été théoriquement considérée comme l'un des premiers signes de vie extraterrestre intelligente que nous pourrions un jour détecter. Il semble que ce jour soit arrivé. La théorie n'expliquait pas tout, cependant. Tout d'abord, il y avait la vitesse impossible avec laquelle les étoiles étaient recouvertes. La construction d'une coquille de Dyson, à partir de rien, en quelques minutes, dépassait les spéculations les plus folles des scientifiques et des auteurs de science-fiction. Ensuite, il y avait les mystérieux filaments qui reliaient les coquilles sur des distances de plusieurs années-lumière. Personne n'avait la moindre idée de leur utilité, ni même de la façon dont ils pouvaient être construits. Tout le monde à la NASA était fasciné par ce mystère. Avec le recul, nous aurions peut-être mieux fait de ne jamais découvrir la vérité. Il y a moins d'un mois, le télescope James Webb a détecté une série de sursauts énergétiques inhabituels, émanant de l'espace interstellaire. Ces sursauts se produisaient à la limite d'un système stellaire situé à environ 12 années-lumière du système binaire qui a disparu en 2007. En focalisant le télescope sur ce système, nous avons rapidement déterminé qu'il ne s'agissait pas non plus de phénomènes naturels. Les signatures énergétiques, qui clignotaient encore par intermittence, correspondaient à ce qu'on attendrait d'une explosion thermonucléaire ou à base d'antimatière, ainsi que de plusieurs autres types d'énergie que nous n'avons pas pu identifier. Ces explosions, bien qu'elles ne soient pas encore visibles à l'œil nu sur Terre à cette distance, étaient d'une magnitude absolument phénoménale, facilement des milliards de fois plus puissante que n'importe quelle bombe nucléaire que l'humanité pourrait construire. Après avoir expérimenté avec les réglages du télescope, nous avons pu obtenir une image plus claire de ce qui se passait. L'extrémité de l'un des filaments interstellaires qui reliait le système Dyson traversait le nuage de Oort, un système stellaire lointain, et s'approchait de son soleil. Et ceux qui vivaient dans ce système solaire se défendaient. Leurs armes ont pu ralentir l'avancée de l'objet, brisant, cassant et vaporisant des morceaux de la taille d'une planète. Mais il semblait se reconstruire aussi vite qu'il était détruit. Après moins d'une semaine, les explosions se sont arrêtées. Il semble qu'ils étaient à court de munitions. Dans le vide, entre les étoiles, nous savions que cette chose voyageait presque à la vitesse de la lumière. Mais en l'observant s'approcher du système stellaire interne, son rythme a ralenti alors qu'elle augmentait en taille, se préparant à dévorer l'étoile du système. Nous avons rapidement orienté les miroirs du télescope sur le soleil condamné. Nous étions sur le point de voir cette chose effacer une autre étoile, en temps réel. Nous avons tous retenu notre souffle en regardant l'image projetée de l'étoile et de la séquence principale, légèrement plus grande que notre propre soleil. Au début, rien ne semblait se passer. Mais juste après, une petite ombre est apparue sur le bord de l'orbe lumineux, bientôt suivie d'une autre ombre, puis d'une troisième. Les ombres ont commencé à converger, formant un motif étrange, mais en quelque sorte familier alors qu'elle bloquait la lumière de l'étoile.
« Qu'est-ce que c'est ?»
Un de mes collègues s'est exclamé.
« On dirait presque ?»
Elle s'est arrêtée, comme si elle avait peur de dire le mot suivant, par crainte du ridicule. Moi, par contre, je n'ai pas eu cette hésitation. Des feuilles, ai-je dit d'une voix monotone. La situation était bien trop incroyable pour exprimer une quelconque réaction émotionnelle, même celle d'un pur choc. On dirait des feuilles. Nous avons regardé, pendant quelques minutes, un réseau de contours ombragés correspondant aux formes familières de feuilles et de fines vignes qui ont commencé à masquer la lumière restante de l'étoile lointaine. À ce moment-là, tout le monde dans la salle avait compris la vérité. Le phénomène que nous suivions depuis tant d'années n'était pas une mégastructure extraterrestre hyper avancée. L'hydrogène, le carbone, l'azote, l'oxygène et le magnésium, certains des quelques éléments familiers que nous avions détectés, ils étaient tous des composants de la chlorophylle. C'était une plante. Une énorme plante qui s'étendait sur des années-lumière. Et comme n'importe quelle plante, elle recherchait la lumière pour s'alimenter. Les filaments qui reliaient les étoiles à travers l'espace interstellaire étaient des tiges, des branches. Elles se développaient en direction des étoiles les plus proches qu'elle détectait, les enveloppant complètement et continuant son chemin. Toute vie habitant les planètes en orbite autour de ces étoiles était laissée là, à mourir de froid, ou peut-être pire encore. Il était possible que la plante dévore ces planètes pour l'ajouter à sa masse également. Tout le monde est resté silencieux pendant que le télescope continuait de recueillir des données. Finalement, après ce qui semblait être une éternité, un jeune astronome a pris la parole depuis le fond de la pièce, s'adressant à notre superviseur.
Monsieur, nous avons commencé à détecter la formation d'une autre vrille, quittant le système. Son vecteur est...
Il a dégluti. Il n'avait pas besoin d'en dire plus. Mais il l'a fait quand même.
Elle se dirige directement vers notre soleil.
De combien de temps disposons-nous ? Répondit le superviseur d'un ton sinistre.
À en juger par le décalage temporel, la distance, les propriétés relativistes et les vitesses précédemment observées de cette... chose, je n'estimerai pas plus de 27 ans, monsieur.
27 ans. Nous venions de voir cette mauvaise herbe galactique écraser une civilisation qui avait, au minimum, des milliers d'années d'avance sur nous technologiquement. Et il nous restait moins de 3 décennies. Je vais probablement être trouvé et réduit au silence pour avoir publié ceci. Mais je m'en fiche. Je dois le dire à quelqu'un. Je ne peux pas garder ce secret plus longtemps. Lorsque le soleil deviendra noir, et que le monde commencera à geler, vous aurez au moins une idée de ce qui se passe. Même si c'est un petit réconfort. Et c'est sur cette histoire que nous nous quittons. Si vous souhaitez pouvoir écouter d'autres histoires effrayantes et supporter le podcast, alors abonnez-vous dès maintenant et partagez cet épisode. Vous pouvez aussi laisser une note sur Spotify ou Apple Podcast. En attendant de nous revoir dans un prochain épisode, je vous souhaite une bonne soirée et n'oubliez pas, méfiez-vous des ombres.